Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Chaque fois que j'ai tenté de raviver un souvenir antérieur à mon réveil, mon père a asséné « Dis-toi que tu es né à 5 ans et oublie. Contente-toi de ce que tu vois, ce que tu touches. Les fantasmes ne serviront qu'à te rendre malheureuse. Je voulais bien de ce malheur. Tout, plutôt qu'une amnésie aussi béante que l'inexistence d'une mère à mon chevet. Je ne me rendis pas tout de suite compte de son absence. Au début, je ne m'en souciais pas plus que de l'absence d'un pot de plantes sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. J'avais perdu toute notion de père, de mère, de plante. Ma seule intuition mémorielle remontait à une vision récurrente dans laquelle une silhouette floue et très droite s'approchait de moi. En songe, je suis assise sur une chaise suspendue à rien. Arrivée à mon niveau, elle s'arrête, se penche, caresse mes cheveux qui s'effilochent au contact de ses doigts. Elle semble très occupée, à fouiller dans mon crâne. Elle y enfonce ses ongles, ses doigts, la main, le bras. Du sang gicle, rien ne l'arrête. Ni les fragments de cervelle accrochés à ses ongles, creusant au rythme d'une berceuse, murmurée en boucle, ni une odeur de jasmin blanc et de fleurs d'oranger. Sa voix, à peine audible, est apaisante, une sonorité presque absente. La silhouette semble heureuse, elle murmure. Il y a une béance dans l'amour, mour, mour. L'écho des mots irradie sur la réalité. Je n'ai aucune envie de me réveiller. La silhouette fredonne, sa voix est de plus en plus basse. Un parfum d'encens me tire vers la réalité, évinçant les effluves de jasmin et d'oranger, évanoui au profit d'une fumée déployée dans mes draps. J'ouvre les yeux sans aucune garantie du réel, sans la preuve non plus d'avoir rêvé. Seule, ma vision demeure. Avec le temps, elle me tiendra lieu de mémoire, de naufrage, dissipé dans l'encens que mon père s'acharnait à brûler en murmurant des psaumes. Dès que j'avais été en mesure de formuler une phrase, après des mois de rééducation, j'avais décrit ma vision à mon père. D'un geste de la main, il avait balayé l'espace « foutaise ». Le coma n'a pas d'odeur, pas de parfum, c'est un trou et il n'y a rien dedans. Si j'insistais, il ajoutait « dis-toi que t'as... » à creuser un trou dans ton cerveau avant de partir. Ne ravive rien sous peine d'être englouti. Il n'y a rien dans les trous. Dans les films, les mères restent au chevet des comateux et attendent, fébriles, qu'ils donnent un signe. Pas la mienne. D'ailleurs, ta n'a jamais existé, m'assénait-il. Il ne prononçait jamais le mot mère. Il disait folle, furie, hystérique. Parfois, il se taisait. Trois points de suspension remplaçaient le mot qu'il fallait à tout prix oublier. Avec le temps, j'appris à ne plus lui en parler. Quand l'envie me prenait de renouer avec ma vision, je m'étendais sur mon lit ou, parfois même le sol, les draps, les bras posés le long du corps, les muscles relâchés dans l'attente. J'espérais, en reproduisant ma position, revoir en rêve la silhouette parfumée. J'ouvrais immanquablement les yeux, sur rien, sinon sur le plafond blanc de ma chambre. Pourtant, une trace était là. Lointaine, vivace, une nostalgie du vide. Je me sentais aussi décimée qu'une civilisation antique ensevelie par les couches successives de l'histoire. Petite, j'aurais pactisé avec le diable, celui-là même que mon père se vantait de neutraliser en récitant des rosaires pour raviver le souvenir de ma mère absente. La notion de mère m'était revenue, quelques mois après avoir intégré le lycée français du Caire, où mon père m'avait inscrite. Une, parmi les nombreuses contradictions de cet homme, aussi véhément à l'encontre du maintien sous tutelle des nations arabes par les anciennes colonies qu'opposé à sa propre arabité. Mes camarades arrivaient tous, tenant par la main une mère, pas moi. J'avais beau tenir celle de mon père pour marquer que j'étais prolongée par l'amour, dans mes yeux, sur mon front, partout, sur mon visage, le manque dressait son trône. À 11 ans, mon corps cessa de grandir. Je n'ai plus dépassé le 1,50 m, petite, menue, boiteuse. Je traînais un corps, orphelin de l'enfance, d'un bras, d'un pied, d'une chaussure, d'un regard maquillé au kohl, d'un bout de doigt ou d'ongle, même d'une ombre. À la sortie des classes, je restais des heures à scruter, les mères embrassant leurs enfants, Parfois, je ratais le bus, accroché à une bouche maternelle. En songe, ma mère, sans lèvres, sans bouche, sans rien, me couvrait de baisers sourds, muets, en braille, l'autre pendant de l'autorité. Dirait plus tard Dalal, c'est la mère. Dalal était une photographe avec qui je partagerais bien plus qu'un appartement. En Orient, c'est la mère, assénait-elle en épépinant des graines de citrouille séchées. Je te le jure, sur la tête de ma grand-mère milicienne, il n'y a pas de force plus ravageuse que celle des femmes. Il leur suffit de le vouloir, et si tu veux me croire, parfois, il vaut mieux perdre leurs traces.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Interview que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Iyam Yared. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Iyam, vous avez introduit cette interview avec la lecture d'un texte qui est tiré de quel ouvrage ?
Le dernier qui s'appelle « Tout est halluciné » et qui parle essentiellement d'une petite fille qui se réveille à 5 ans d'un coma, qui donc a perdu la mémoire et qui trouve un homme devant elle qui lui dit « Je suis ton père ». Le temps de renouer avec la langue, donc avec la mémoire et vice-versa, et de comprendre ce que veut dire « Je suis ton père ». Elle cherche le pendant de ce père, la mère, et là, son père lui dit « Vadre tro satana ». Interdit de parler de la 3 points de suspension, puisque son père ne prononcera jamais le mot mère, et interdit aussi de parler de son pays d'origine, qu'elle découvrira être au fil de ce livre qui est mené un peu comme une enquête, donc qu'elle découvrira être le Liban, que son père ne prononce jamais, sinon comme un mot de bègue, il dit et puis il passe à autre chose, comme si c'était une chose honteuse qu'il ne fallait pas mentionner. Alors, ce livre est surtout une quête, un peu une quête identitaire en filigrane de cette femme qui s'appelle Justine, qui grandit donc avec ce père, qui lui-même vit dans une sorte de coma historique, puisqu'il vit dans la nostalgie de Byzance et le regret de la chute de Constantinople. Il a choisi de vivre au Caire pour être au plus près des chrétiens d'Orient, ou en tout cas ceux qu'il considère être les descendants de Saint-Marc, qui a mis en place les prémices de l'église copte d'Égypte, puisque d'après lui, c'est tout ce qui reste des chrétiens d'Orient depuis la chute de Constantinople. Et toute la journée, il répare des icônes byzantines en récitant des psaumes et en écoutant des chants liturgiques. Donc, comment fait-on quand on a 5 ans, qu'on essaye de grandir en adéquation avec son monde contemporain et ses amis à l'école? Comment fait-on pour réussir à se détacher d'un tel poids, d'une telle chape, d'une autorité absolue qui cherche à contrôler finalement le vide dans son cerveau, et en la privant finalement de deux sources majeures dans une quête identitaire qui sont la mère-nation et la mère-matrice. Et donc, il y a tout un processus qui se met en place et à un moment donné, elle va affronter la colère du père, retourner au Liban pour essayer de voir ce que cela produirait en elle, finalement, comme choc d'aller se jeter dans cet inconnu-là dont elle a été privée.
Est-ce que le père est-il une image de ce que sont les hommes du Liban aujourd'hui, c'est-à-dire... une honte, est-ce qu'ils vivent une honte de leur pays?
Alors ce père, c'est un peu la métaphore de toute autorité absolue d'État, de chef de famille, de chef politique, qui chercherait justement à manipuler l'histoire, à manipuler leurs suiveurs, on va dire. Pour des parents, ce sont leurs enfants. Pour des chefs politiques, ce sont les adhérents à leur parti. Pour un gouvernement qui gère un pays, ou des dictateurs d'ailleurs, ce sont leurs opprimés. Donc, comment fait-on finalement pour manipuler les peuples, pour manipuler des individus? Eh bien, on les prive de leur histoire. C'est-à-dire que ce livre est un peu une métaphore d'une réalité libanaise qui est un peu un déni de mémoire dans lequel ce pays se construit, continue de se construire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas une histoire consensuelle libanaise depuis que le Liban a déclaré son indépendance en 1943 du mandat français. Les manuels d'histoire officiels qui sont proposés dans les écoles se sont arrêtés à cet événement de l'histoire, c'est-à-dire la proclamation de l'indépendance d'une nation libanaise, qui est un peu à l'image de Justine, en ce sens que c'est une jeune nation, un peu adolescente, bègue, un peu claudiquante comme elle, et qui cherche finalement, à travers aussi cette guerre civile, à redéfinir son identité et son équilibre identitaire interne, puisqu'il faut savoir que c'est un pays qui bénéficie à la fois parce que c'est une bénédiction et qui en souffre à la fois parce que si on ne sait pas gérer cette pluralité, ça en devient une malédiction. Eh bien, ce pays bénéficie d'une vraie pluralité au niveau sociétal, puisque le tissu social de ce pays est constitué de 18 communautés. Donc, et pour moi, c'était essentiel de parler de ce vide, parce que ce vide de l'histoire, enfin, il y a 70 ans qui sont occultés par les manuels d'histoire. Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer vers un avenir ? En s'enracinant dans un coma. Et pour moi, c'est incompatible avec le progrès, finalement, d'une société vers l'avant et de l'instauration de ce que, finalement, recherche un peu ce monde arabe à travers ces printemps arabes. Nous aspirons à une démocratie, à des démocraties arabes, mais nous ne pourrons pas les faire sans une mémoire consensuelle, sans des sites mémoriels, sans des manuels qui relatent une histoire qui soit inclusive de tous les partis et non qui exclut la valeur ajoutée de l'autre par rapport à un même fait historique. Vous savez, on n'aborde pas un même fait sous les mêmes, on l'aborde de différents angles et chaque angle fait partie de cette histoire. Donc c'est un peu le cas de Justine qui essaye finalement de découvrir tous ces angles de sa propre histoire dont elle a été privée.
Et Justine, a-t-elle à voir avec le Marquis de Sade par rapport à son texte ?
Non, ici, c'est surtout par rapport au père qu'il a appelé Justine en référence à Justinien, le grand empereur byzantin à qui l'Empire byzantin a dû vraiment son unification et sa force durant des siècles après qu'il ait été empereur. Donc c'est surtout en hommage, parce qu'il est vraiment obsédé par son Empire byzantin. Donc il a appelé sa fille Justine comme Justinien. Il a même changé leur nom de famille. À la base, c'était une famille libanaise du nom de Fayyad. Il l'a changé en Notaras. Alors Notaras, c'est le grand-duc de Constantinople qui a défendu la prise de Constantinople aux mains des Turcs jusqu'à la fin, jusqu'à son propre martyr et le martyr de son enfant, de son fils devant lui, donc qui s'est battu. Et donc pour le père, c'est une grande figure des martyrs byzantins tombés au combat pour que Byzance perdure. Et il est même persuadé que Byzance va renaître de ses cendres et il est d'ailleurs actif en ce sens, c'est-à-dire qu'il est totalement mythomane et d'ailleurs tous les jours il compte 1500, 30 000, 40 000, 50 000. À la fin du livre, il arrive à 550 000 soldats qu'il rassemble de par le monde pour reconquérir Byzance, alors qui évidemment, donc c'est un peu, c'est en rapport au titre de ce livre, tout est halluciné, c'est-à-dire que cet homme a halluciné l'histoire, il a halluciné Byzance, il hallucine le présent de sa fille, il veut l'amener à ses hallucinations et elle ne veut pas. Après, voilà, donc c'est en fait une perte de repère pour moi qu'il était important de relever entre fiction et réalité, entre un fait quel qu'il soit. Une histoire factuelle, puis cette même histoire factuelle, elle est différente quand elle est racontée, elle est encore différente quand elle est transmise, et dans ces différentes couches d'une même histoire, où se perd le réel en définitive ? Où est la part du réel et où est la part des hallucinations de nos cerveaux, de notre imaginaire ? Parce que notre imaginaire a ce pouvoir immense de transformer le réel quand ce réel est insoutenable. Voilà. Et je fais allusion aux guerres, je fais allusion à un conflit dans cette région qui fait que finalement les gens sont tentés à rester bloqués dans des comas pour ne pas avoir à affronter une réalité qui leur serait insoutenable.
Vous êtes né à Beyrouth. Vous y vivez au Liban aujourd'hui ou alors vous êtes vous vous déplacez souvent en Europe?
Alors j'y vis physiquement, mentalement je suis partout ailleurs, notamment dans mon écriture qui est une merveilleuse opportunité de distanciation sans prendre l'avion. Et sinon je voyage beaucoup bien sûr aussitôt que les livres et les invitations dans des rencontres me le permettent.
Alors, on va revenir aussi au centre PEN du Liban, ce qui veut dire particulièrement comment, ça veut dire quoi, PEN ?
Ah, le PEN, c'est une association qui n'a rien à voir avec Marine Le Pen, heureusement.
J'ai pas du tout pensé à ça. Hein.
Et qui est en fait, c'est une organisation internationale qui s'occupe d'être à l'écoute du droit des auteurs, de la liberté d'expression, de l'oppression des auteurs. Donc sa base est en Angleterre et il y a des structures peines qui sont nationales et qui, voilà, c'est une espèce de communauté de centres qui défendent les écrivains et leurs droits et leur liberté d'expression. Donc nous avons un centre peine au Liban. Pen, c'est le mot du crayon, le crayon en anglais. Et nous essayons d'être actifs parce que ce sont des régions du monde où plus que jamais la liberté d'expression est en danger, où la censure ne cesse de se durcir. Quand on voit en Turquie, avec les derniers événements du coup d'État raté contre Erdogan, ce qui s'est passé à la suite. Aujourd'hui, il y a Asli Erdogan, notamment, qui est une auteure qui n'a rien à voir avec le Erdogan lui-même, voilà, qui a été jeté en prison. Bien, quand nous savons ça, c'est bien à ça que sert la structure de tous les peines implantées dans nos régions et qui se doivent d'être vraiment à l'écoute de l'actualité littéraire qui rentre en collision avec les autorités des gouvernements et de la censure.
Et votre littérature s'inspire de l'actualité, on peut dire, et elle se nourrit aussi de tous ces combats qui sont menés pour le droit à l'expression ou à la reconnaissance humaine ?
Je pense à la reconnaissance humaine essentiellement. C'est surtout ça. Bien sûr, toutes sortes d'oppressions. Je veux dire, c'est bien pour ça qu'on écrit, je pense, parce que pour moi, depuis tout temps, l'oppression m'est insoutenable. Je pense qu'elle est insoutenable pour tout le monde. Il se fait que j'ai ce plaisir d'écrire qui vient se greffer à mon sens profond. Vous savez, Camus disait « La littérature n'est pas engagée, elle est embarquée. » Donc, je suis forcément embarquée dans mon compte, temporanéité. Donc, dans cette actualité, on ne peut pas, voilà, je ne peux pas vivre au Liban, voir ce qui se passe dans les camps de réfugiés syriens chez nous, comme en Europe, voir les images à la télé. Et je ne sais pas, moi, je n'arrive pas personnellement à parler d'autre chose que de ce qui me tient à cœur. Et j'ai mon présent dans les tripes. Et ce présent-là, si je regrette les dénis de mémoire, je ne peux pas avoir un déni de présent. Donc j'écris avec mon refus de ce déni de présent. Et bien sûr, après, il y a la force de l'imaginaire. Nous essayons aussi de faire du roman et de la littérature. Je ne suis pas documentaliste, je ne fais pas du reportage. Je fais des romans, des histoires de vie, des histoires de personnes, notamment dans Tout est halluciné. Pour pouvoir terminer ce livre, quand je l'ai écrit, j'ai été en Égypte un an après le début des printemps arabes. Je voulais vivre, je voulais sentir la rue, je voulais la sentir vibrer. Et donc j'ai rencontré des personnes absolument remarquables, des activistes, qui m'ont raconté leur récit. Et bien ces gens-là, que l'histoire écraserait en faisant d'eux des gens absolument anonymes, puisque ce n'est pas des héros dont on entend parler, il y a des milliers de gens comme eux. Chaque action de chaque personne a contribué à changer les choses et pourtant nous ne parlons jamais d'eux. Eh bien moi j'ai récolté leurs témoignages, j'ai essayé de retranscrire d'eux de ces témoignages dans ce livre, à travers mes personnages de Samar et de Mohamed, un chanteur qui perdra, qui était chanteur à la base, qui met sa guitare de côté, qui met son oud de côté, qui met son chant de côté, parce qu'il a un devoir plus important que son chant, c'est de changer cette société, de ne plus accepter de dictateur, d'enfin descendre dans la rue et de dire non à l'oppression. Et bon, il faut lire le livre, mais c'est vrai que ce qui m'a désolée, c'est qu'à un moment donné, il m'a regardée avec un air triste. Et il me disait, tu vois, je suis déçue, parce qu'on est tous déçus, c'est ça la réalité. On est tous déçus par le tournant qu'a pris cette révolte, cet espoir des printemps arabes. Et il m'a dit, j'ai perdu ma voix. Je lui ai dit, mais enfin, il ne faut pas, il faut que ce chant continue d'être, cette passion te sauvera. Et c'est là qu'on se rend compte combien on peut être décalé avec nos répliques. Parce qu'il m'a regardé et il m'a dit, mais tu ne comprends pas, je n'ai plus de voix. Et c'est ça un peu les personnes remarquables, hélas écrasées par l'histoire, dont moi j'ai envie de relayer la parole dans mes romans. Thank you.
Actuellement, dans le monde, vous avez amené le mot déçu, déception. Est-ce que nous sommes dans une époque qui est vouée à la déception pour toutes les sociétés de la planète ?
Je pense que la modernité et la technologie non accompagnées d'un investissement, qu'il soit financier dans les universités ou autre, dans la recherche, dans la philo, dans une certaine... C'est-à-dire que je pense que le problème aujourd'hui, c'est que la modernité a dépassé l'évolution de la pensée éthique, de ce que... je pense qu'il y a un problème d'adéquation entre l'avancée technologique et l'avancée de la pensée. Et quand j'apprends aujourd'hui qu'il y a des universités dont les départements de philosophie sont fermés, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il faut être productif tout le temps. Les jeunes sont sous pression. Si vous avez une famille que vous voulez faire de la philo et que la philo n'est pas rémunératrice, ben vous allez aller faire autre chose. Donc on ferme des départements. Aujourd'hui en France, on m'a appris qu'on fermait des départements de philosophie. Moi je suis libanaise. Si aujourd'hui au Liban, nous apprenons qu'en France, qui est quand même ce modèle pour nous de la promotion de la culture, la culture, et pour moi en tout cas vu du Liban, a toujours été les assises de cette société française. Eh bien si on commence en France à réduire ces assises-là, eh bien oui, je pense que c'est un coup quand même que nous prenons. Et je pense que la France a le devoir de maintenir ses institutions. Et au lieu de couper les budgets de la culture, il devrait les couper ailleurs. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas économiste, hélas. Et ce que je dis peut sembler utopique quand on fait les comptes à la fin de la journée. Mais si la France en arrive là, je ne vois pas comment on peut nourrir de l'espoir ailleurs, hein. C'est... Alors vous imaginez aujourd'hui, moi quand je vois que avec le problème syrien, le conflit syrien, vous avez des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui sont déscolarisés, encore que notre génération à nous, c'est peut-être moins grave parce que nous avons reçu ce que nous avons reçu, nous devons subir une guerre, nous la subissons, mais la génération d'après, c'est la relève. Si la relève est déscolorisée, on va faire quoi ? On fait comment ? Et la France, de l'autre côté du monde, eh bien, elle réduit et elle élimine des départements de philosophie. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. C'est dur pour moi. Voilà.
Vous avez étudié la sociologie à Beyrouth, hein, à l'université de Saint-Joseph. Est-ce que ces études vous ont permis d'axer votre manière d'écrire ?
Alors, je ne sais pas si ce sont mes études tant que ce sont mes lectures personnelles. Bien sûr, je n'ai pas choisi sociologie par hasard. Je pense que les écrivains sont à leur façon des espèces de micro-sociologues qui travaillent, même si c'est subjectif, même si c'est des démarches individuelles, ils disent des choses qui se rapprochent un peu de ce que peut être la sociologie. Mais pour moi, c'est vraiment, l'écriture a été une approche empirique, autodidacte. J'ai choisi mes livres en suivant mes coups de cœur. Ça n'a été qu'un parcours de passion et de choix vraiment libres et qui m'ont beaucoup nourri en écrivant.
Et donc, votre premier coup de cœur, L'Armoire des Ombres, qui est sorti en 2006, parle des conditions de la femme dans les pays orientaux, c'est ça ?
Alors, vous savez, je pense que les obsessions d'un auteur se déplacent d'un livre à l'autre en prenant des visages différents. Et dans L'Armoire des Ombres, qui est mon premier roman, paru chez Sabine Vespizer en 2006, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans un théâtre, qui a besoin d'argent. On lui dit, vous ne pouvez pas accéder au théâtre, faire le casting. Elle vient pour un casting, on lui dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le rôle avec votre ombre, il n'y a pas de place pour vous et votre ombre dans le rôle, il faut l'accrocher au vestiaire. Bon, bien sûr, ça part d'une idée un peu farfelue d'accrocher son ombre au vestiaire. Mais pour moi, c'était une métaphore pour dire, c'est comme s'il fallait mettre son identité, sa vraie identité, pas celle qu'on donne à voir, celle qu'on est forcé de cacher parce qu'il y a des sociétés avec des mentalités trop archaïques pour accepter votre vraie nature et votre vraie soif de liberté. Et donc, il faut composer avec ce genre de diktat. Et alors forcément, c'est beaucoup la place de la femme dans la société, c'est parce qu'elle arrive sur scène déséquilibrée. On lui dit qu'il y a une armoire remplie d'ombre pour pallier avec le manque, et elle va déballer les armoires, elle va déballer les ombres, elle va coller les ombres au mur, et chaque ombre appartient à la mémoire des autres. Et c'est aussi, pour moi, c'était important de parler qu'il n'y a pas de jeu sans autrui, il n'y a pas de moi sans autrui, il n'y a pas d'écrivain sans lecteur, et ce n'est qu'à travers la mémoire des autres que nous pouvons finalement nous découvrir et nous découvrir vraiment. Et c'est aussi un peu le message libanais que j'essaye toujours de quand je dis nous ne pouvons pas avoir une mémoire qui ne soit pas consensuelle, qui ne soit pas inclusive de la mémoire de chaque communauté, et non pas exclusive et dans le rejet de l'autre. Donc c'était un peu pour moi une forme métaphorique pour exprimer un peu ce qui me tient à cœur d'exprimer.
Au Liban, il y a beaucoup de soleil.
Absolument.
Est-ce que vous avez du soleil dans votre littérature, ou alors c'est surtout de l'ombre ?
Ah non, non, j'ai un livre qui s'appelle Sous la tonnelle, qui est absolument, c'est un livre que d'amour, hein, d'amour inconditionnel au cœur des pires effondrements, mais c'est un vrai message d'amour pour moi, plein de soleil, plein de joie. C'est l'histoire d'une petite fille devenue adolescente, ou plutôt femme, et qui perd le seul être au monde qu'il ait vraiment aimé, qui est sa grand-mère. Et donc, c'est vraiment une lettre d'amour. Le livre commence, ça s'appelle Sous la tonnelle, et le livre commence avec le décès de cette grand-mère. La petite fille rentre dans son bureau, ouvre ses dossiers, ouvre ses tiroirs, et en déballant les lettres de cette femme qu'elle va trouver, elle va déballer sa mémoire. Et donc, il y a toute cette relation qui se raconte très belle, au-delà du contexte d'une guerre civile qui sourde autour d'eux. Mais voilà, c'est la force de l'amour et qui est une forme de résistance. Quand rien ne va, nous avons encore de l'espoir à travers l'amour. Je pense que l'écriture est une forme d'espoir, la littérature, l'art. Vous savez, ce sont des régions du monde depuis que les printemps arabes aussi ont commencé. Cette énergie artistique a décuplé des taggeurs, que ce soit les taggeurs, que ce soit les musiciens, que ce soit les artistes, que ce soit les écrivains. Et il y a une prolixité inespérée qui naît des conflits et qui sert justement à survivre et à aider toute une société à continuer d'avancer en espérant que tout cela, tout ce cauchemar-là s'arrêtera finalement. Mais il y a du soleil dans cette créativité.
Il y avait une auteure hier qui était venue à nos micros parler de ses livres aussi, et qui disait à un moment donné qu'actuellement l'économie libanaise est catastrophique, mais qu'au niveau culturel il y avait un ministre qui s'activait beaucoup pour l'essor de la culture au Liban, avec des très faibles moyens, voire même inexistants, ce qui n'empêchait pas quand même beaucoup de personnes à s'engager et à, comment dire, s'investir dans ces démarches de la culture et faire resplendir le Liban. Est-ce que vous êtes dans cette démarche vous-même ?
Oui, je pense que l'espoir au Liban vient essentiellement de la société civile. Il y a des vrais activistes qui font énormément, activistes culturels j'entends, et qui vraiment organisent avec vraiment peu de moyens des événements, des expositions, donc vraiment ils mettent en place des plateformes afin que d'une certaine manière cette douleur exprimée à travers l'art circule de manière moins pénible. Et vous savez, l'art est un espace qui permet tout, qui prend le relais de l'oppression, qui prend le relais de tout. Et quand vous donnez les moyens, vous lui donnez les moyens de s'exprimer, c'est merveilleux. Et je pense que ce soit le ministre de la Culture ou la société civile, il y a un vrai travail. Je pense que de toute manière, ce sont les sociétés civiles qui auront gain de toutes les dictatures au final. Ça, par contre, j'en suis persuadée. Et ils auront gain de toute l'instrumentalisation qu'ont fait ceux qui ont intérêt à alimenter les conflits. toutes ces instrumentalisations de la quête identitaire finalement que vit maintenant cette région du monde, parce que ce n'est que ça, les printemps arabes, c'est une quête identitaire et un non géant à l'oppression, et l'art est un lieu et l'art est un moyen de relayer la parole des sociétés, est magnifique, et au Liban il y a vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens.
Le printemps arabe ou les printemps arabes, pour vous, ça demeure encore une source d'espoir, ou il y a eu déjà des déceptions par rapport à ce que certains pays ont brillé, quoi, je dirais.
Certains pays ont brillé, à part la...
Vrillé.
Vrillé, oui. Ouais, parce que tout le monde a vrillé, à part la Tunisie qui s'en sort un peu moins mal. Mais je n'ai pas dit beaucoup mieux, j'ai juste dit un peu moins mal. Vous savez, c'est ça quand je dis il y a une instrumentalisation. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait une révolte. On peut l'appeler, je ne sais pas après si c'est une révolution ou une révolte, mais on va dire qu'il y avait quelque chose là. Il y avait pour la première fois, des individus descendaient à la rue et découvraient le pouvoir du non, enfin. Et femmes et hommes, main dans la main. Aujourd'hui, moi, j'ai une question qui est ma grosse déception, qui est de me poser la question suivante. Où sont les femmes? Voilà. Alors, je pense que malheureusement, cette affaire-là a surtout servi à ramener la femme encore plus mal que là où elle était. Ça s'applique pas trop à la femme libanaise pour l'instant, mais quand je regarde ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, je veux dire, pour moi c'est juste inconcevable de nous retrouver encore au 21e siècle, même au Liban, dans les camps de réfugiés syriens, hein. Il faut savoir que le Liban est un des pays qui a le taux le plus élevé de trafic de filles, de trafic d'êtres humains et donc de trafic de filles elles sont vendues à des gens du Golfe pour la plupart parce qu'on n'a plus de quoi les nourrir. Donc pour moi ce sont autant de déceptions et chacune est un gouffre. Alors oui, je suis déçue. Après je me demande si peut-être, vous savez, la Révolution française n'a pas amené tout de suite la société française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça a mis du temps, ça a mis presque 2 siècles. Peut-être qu'il faut un temps.
Elle a eu droit à ces massacres aussi.
Elle a eu droit à ces massacres, à ces décapitations. Puis si par exemple, moi je vais parler d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges qui a été une des grandes militantes révolutionnaires. Puis quand elle a voulu faire... Son droit des femmes en parité avec un droit des hommes, elle a été décapitée. Donc voilà, la femme est toujours sacrifiée un peu sur l'autel des changements des sociétés. Mais j'espère, voilà, c'est mon seul espoir auquel j'essaye de m'accrocher, que ce sera aussi le cas de cette région du monde et que la femme ne sera sacrifiée que momentanément. Afin qu'elle puisse mieux prendre sa place, parce que je pense qu'il n'y aura aucune démocratie arabe possible sans une vraie parité homme-femme, en dépassant toutes ces, je veux dire, la femme, qu'une femme soit traitée en mineur, comme si c'était, je n'arrive pas à le concevoir, voilà. Et j'espère que ce sera passager pour enfin des vrais droits civils égaux entre hommes et femmes. Déjà ça.
Tous vos livres sont autour de la thématique de la femme, de ses conditions d'existence. Est-ce que vos livres traitent de ce sujet autour de ça?
Oui, vous savez, ils traitent beaucoup de cette question-là. Il y a un livre qui s'appelle « La malédiction » que j'ai écrit aussi, qui parle d'une femme qui a subi des attouchements, dont le pire serait peut-être, au-delà des attouchements physiques avec des hommes, et aussi été l'attouchement psychologique de sa mère, quelque part. C'est une métaphore pour dire que les mères, souvent, sont les soldates du patriarcat. Et donc, cette mère oppressive, finalement, a causé autant de dégâts chez cette fille que les attouchements, et qui se retrouve à la fin devant un tribunal religieux parce qu'elle demande la garde et la tutelle de ses enfants au terme d'un mariage qui aurait mal abouti. Et on lui dit, voilà, vous n'avez pas le droit d'en avoir la garde et la tutelle. Parce que figurez-vous qu'il y a une loi au Liban qui stipule que si on est veuve, et c'est bien de ça que je parlais tout à l'heure en disant que la femme est considérée comme un être mineur, est traitée comme une minorité à opprimer. Donc la femme, si elle est veuve, elle n'a pas la tutelle et la curatelle immédiate de ses enfants, mais uniquement, elle pourrait y avoir droit si les mâles restants dans la famille du défunt, à savoir le père ou le frère du défunt, donc de son mari mort, en donnaient l'autorisation. Sinon, ils peuvent en avoir la garde prioritairement s'il l'a demandé. Donc pour moi, ça déjà, c'est une aberration de considérer que la femme est juste un utérus au service de la procréation d'une société, alors que c'est une mère. Une mère capable, une mère ne devrait même pas avoir à justifier la légalité ou de son amour, ou est-ce que son amour pour ses enfants serait l'égal de l'amour que porterait le père pour ses enfants-là. Je veux dire, pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que... Donc, pour moi, ça, c'est déjà une loi absolument aberrante et j'ai voulu ancrer ce roman sur cette absurdité-là. Et des lois comme ça, vous savez, il y en a des tonnes. Alors, si au Liban, cette loi existe, ce Liban qui affiche une certaine modernité, sa société a l'air tout à fait, entre guillemets, occidentalisée, je n'aime pas le terme, mais voilà, tout à fait ouverte au monde. Et alors, vous pouvez imaginer quel est le cas de la condition de la femme dans d'autres pays. Aujourd'hui, en Irak, en Syrie, avec Daesh qui s'est implanté, mais ailleurs aussi, je veux dire en Arabie Saoudite, en Iran, dans tous ces pays-là où il y a un vrai travail de fond. Alors, moi, vous savez, je n'arrive pas. On est conditionné par son corps. Ben, il se fait que je suis une femme. Donc, j'écris avec tout ce que je suis, avec tout ce qui m'obsède, avec tout ce qui me passionne aussi, puisqu'il n'y a pas que des révoltes. Il y a des moments de grâce qu'on a aussi envie de raconter. C'est aussi ça, la littérature. Et j'essaye de faire en sorte que tous ces aspects-là se mélangent harmonieusement dans un livre. Voilà.
Est-ce qu'il y a des sujets auxquels vous pensez, ou même ayant même un désir très fort de traiter en littérature, que vous ne pouvez pas aborder, puisque l'actualité vous en empêche, avec justement les conditions de la femme, par exemple?
C'est marrant que vous posiez cette question, parce que récemment, j'ai rencontré une personne très belle, une femme, du moins j'ai pensé qu'elle était femme, mais... Finalement, elle m'a annoncé qu'elle avait été un homme avant d'être une femme. Et moi, ça m'a bouleversée, parce que ça me fait poser des questions au niveau du genre, de la perception du genre dans nos sociétés. Alors oui, moi, c'est un sujet dont j'ai envie de parler. Et parfois, c'est vrai que quand une actualité atroce se passe autour de nous, je me dis... Vous savez, quand chaque fois que j'ai voulu défendre les femmes, souvent, j'entends des gens, parfois même des intellectuels, me dire « Maintenant, la condition de la femme, ce n'est pas le moment, hein, parce qu'on a d'autres chats à fouetter, on a des obus à recevoir sur la tête, des... » Eh bien non, Pourquoi ce n'est jamais le moment ? Voilà, cette remise à plus tard de la question du genre, de la question du... Moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup et que je pense que je traiterai malgré tout et en dépit d'une urgence d'écrire peut-être un livre plus historique ou sociopolitique. Voilà, j'ai écrit « Tout est halluciné » pour un peu... pour une prise de conscience de ce qu'est un peu ce Moyen-Orient très compliqué. Et maintenant, je pense que je peux passer à ce que j'ai envie aussi de faire, qui est la question du genre dans nos sociétés. Comment est-ce qu'elle est perçue? Où est-ce qu'on va avec? Et voilà, et inversement.
Vous citez souvent le mot métaphore. Pour vous, la métaphore, est-ce que c'est comme un dernier rempart dans l'expression littéraire?
C'est un subterfuge absolument génial. Quand, vous savez, sous les plus grandes dictatures, la poésie... prend en général devient prolixe parce que la dictature permet les métaphores, permet finalement de dire les choses de manière détournée et de les dire quand même. Donc c'est quand même une force souterraine, mais une force quand même. Et moi j'aime bien les métaphores parce que ça permet beaucoup de créativité aussi, d'imaginaire. Plutôt que d'appeler une table, appelons-la, je ne sais pas moi, une planche de bois sur quatre pieds. Et vous savez, moi je viens de la poésie et je ne peux pas m'empêcher de continuer d'être poète, même en écrivant des romans, parce que c'est quelque chose qui m'habite, c'est aussi ma nature seconde.
À vous écouter et d'autres auteurs que j'ai entendus aussi ici, j'ai l'impression qu'il y a une urgence dans la manière de vous exprimer, c'est-à-dire un débit rapide, comme si il fallait dire les choses vite et avec beaucoup de force et de conviction. C'est typique au Liban, ça, actuellement, vous pensez ?
Pourquoi les autres aussi ?
D'autres auteurs, oui, aussi. Qui ont cette urgence dans l'expression, de la manière de parler.
Ah, c'est, vous savez, peut-être ça part de ce syndrome de se dire, mais inconsciemment, je veux dire, on ne pense pas qu'on va mourir demain, mais vous savez, quand vous avez traversé des moments où la mort était juste devant vous, bah, du coup, vous avez toujours peur de mourir sans avoir fini de parler, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous avons une urgence en tout, une urgence de vivre, une urgence. Il y a une énergie au Liban, une intensité de vie qui n'a pas d'égal, enfin je pense, et qui n'a d'égal que l'intensité de mort. Vous savez, c'est un peu l'éros nourri par Thanatos et Thanatos nourri par l'éros. Donc ce désir qui nous porte et qui nous permet de survivre finalement à cette potence que peut être la mort et dans des pays où tout nous le rappelle.
Alors, Iyam, vous êtes présente à Adi actuellement, puisque nous les rencontres du festival Est-Ouest consacré au Liban, vous en êtes une des invitées. Comment vous trouvez-vous le Diwa, par exemple ? Ça, c'est une question.
Ah ben moi, j'ai eu un coup de foudre aussi inexplicable que peuvent l'être les coups de foudre, c'est-à-dire ne me demandez pas pourquoi, mais je suis arrivée sur cette petite place. Vraiment, je suis tombée amoureuse de la chambre d'hôte où je suis logée, de la personne qui m'a accueillie, de toutes les personnes qui m'ont accueillie. Il y a une vraie chaleur humaine que j'ai ressentie. Et puis, la beauté de la nature, c'est juste à couper le souffle. Et je me disais justement que je reviendrais bien en résidence d'écriture ici, me prendre 3 semaines juste pour écrire et, voilà, et me balader dans les rues de Die. Vraiment, je n'ai pas ça pour toutes les villes, toujours. Et voilà, c'est un coup de foudre que j'ai eu pour Di.
Eh bien, Iyam Yared, merci d'être venu nous parler à nos micros de Erdiwa. Eh bien, je vous remercie et puis souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, merci beaucoup.
Interview.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.